des femmes écrivains. Une chronique de Jean Mauduit sur Canal Académie.
Bonjour Jean Mauduit, quel est votre programme au menu d'aujourd'hui dans votre chronique ?
J'ai un très très beau programme puisqu'il s'agit d'un livre qui est une clé. Je concilie d'ailleurs deux valeurs pour moi importantes. C'est un livre écrit par une femme, mais il est consacré à un très grand écrivain, François Cheng.
Alors, quelle est la femme ? Quel est l'auteur ?
C'est Madeleine Berthaud, qui est une universitaire. J'aurai l'occasion d'en reparler. Le titre, c'est « François Cheng, un cheminement vers la vie ouverte ». Ça a paru aux éditions Hermann, au prix de 25 euros.
Alors, François Cheng, de l'Académie française, on le sait, il occupe le fauteuil 34 où il a succédé à Jacques de Bourbon-Busset. Oui. C'est un écrivain, comme vous le dites, tout à fait exceptionnel.
Oui, l'Académie, je trouve, s'est honorée en accueillant dans ses rangs cet écrivain-là. Mais au-delà, ce que je voudrais souligner, c'est qu'au-delà de l'énorme portée culturelle de l'événement, l'Académie qui s'ouvre à l'Asie, puisque François Cheng est d'origine chinoise, était chinois, il s'est fait naturaliser français, mais l'Académie s'ouvre à l'Asie après s'être ouverte à l'Afrique avec Léopold Senghor. Au-delà de ça, qui est considérable, l'admission de François Cheng à l'Académie française désigne un homme qui ne ressemble à personne, à la fois par son parcours et par la singularité, je dirais, irréductible de son œuvre.
Il a commencé à écrire dans les années très jeunes.
C'est un cas, là encore, parce qu'il a vécu en Chine jusqu'à l'âge de 20 ans. Il est entré à l'université de Nankin pour étudier l'anglais. Et puis, comme ses parents avaient hérité d'une mission en France, il les a suivis en France. Et lorsque ses parents sont repartis, leur mission achevée, ils avaient participé plus ou moins à la fondation de l'UNESCO, les parents, grands universitaires. Quand les parents sont repartis avec toute la famille pour l'Amérique, Cheng a dit « Moi, je reste en France ». Le coup de foudre. Le coup de foudre. Et à l'époque, il ne connaît pas un mot de notre langue. Il a 20 ans.
Et il va passer d'une langue à l'autre, ce qui est peut-être plus difficile que de simplement apprendre une autre langue.
Oui, parce que Madame Berthaud souligne très bien le caractère exceptionnel du phénomène. Passer du chinois, qui est une langue complexe, à base d'idéogrammes que chacun sait, au français, qui est une langue difficile aussi, une grande langue, pétrie d'abstractions, c'est déjà un exploit. Autrement dit, pour un chinois de parler couramment le français, pour un français de parler le chinois, c'est un exploit. Mais se réenraciner dans la langue française, en terre française, au point d'intégrer sa propre culture, c'est-à-dire, je cite Madeleine Berthaud, une manière de sentir, de percevoir, de raisonner, de déraisonner, de jurer, de prier et finalement d'être, ça, c'est une performance qui relève de l'extrême, au point de devenir, encore une fois, un grand écrivain, d'être honoré et accueilli par l'Académie française. Alors, je ne sais pas comment expliquer.
Oui, qu'est-ce qui explique cette passion, au fond, pour la France ? C'est la passion, tout simplement, non ?
Oui, l'amour, mais avec une volonté hors pair, quand même. Mais la volonté n'est qu'un moyen. Il faut, en effet, la passion. L'amour de la France, on peut dire, un amour fou, unique, insensé, déraisonnable, tout ce qu'on voudra, dans le surpassement, au prix de 40 ans d'efforts, de travaux, puisque les premiers ouvrages de Cheng en français paraissent dans les années 80. Alors, selon ses propres termes, François Cheng a épousé la langue de son pays d'adoption. Et en même temps, je dirais qu'avec elle, il a épousé les croisades, il a épousé les cathédrales, la Pléiade, la princesse de Clèves, Notre-Dame de Paris, les fleurs du mal, le surréalisme, le cubisme, tout. Toute notre culture.
Mais il n'a pas pour autant tourné le dos à la sienne.
Absolument pas. Aussi longtemps qu'il n'était pas assez sûr de lui pour écrire en français des romans, Cheng s'est consacré à la traduction en mandarin des œuvres de Victor Hugo, de Baudelaire, de Rimbaud, Mallarmé, etc. Et ce n'est qu'au moment où il a compris, senti qu'il possédait la pleine maîtrise de notre langue, qu'il s'est mis à écrire en français des essais, des poèmes, des romans, dont l'essentiel, je vous rejoins, est voué à la réalité chinoise d'aujourd'hui.
Oui, il ne faut pas oublier qu'il a écrit beaucoup de poèmes, en effet. C'est des sortes de méditations aussi.
Oui, oui.
C'est une sorte de passeur entre les deux cultures, entre les deux continents.
Oui, c'est un passeur, mais je voudrais souligner que ce genre de transfusion, si je puis dire, suppose une somme de générosité extraordinaire. C'est un homme qui donne tout ce qu'il possède, finalement, et qu'il a acquis auprès d'efforts inouïs, on vient de le dire. Il donne la Chine à la France, en quelque sorte. Et il donne la France à la Chine. Et ce faisant, il fait don de lui-même. Il y a quelque chose de christique dans sa démarche.
Mais en tout cas, il n'y a pas de syncrétisme.
Non, ça n'est pas le syncrétisme. J'oserais dire, surtout pas. Il ne s'agit pas ici de faire fusionner deux cultures au risque de produire un rejeton plus ou moins abâtardi, mais il s'agit de les révéler l'une à l'autre, de les mettre en perspective dans la vérité de la surprise, du saisissement. Là aussi, c'est une rencontre d'amour entre deux cultures.
Alors, ce qui nous l'a révélé à nous, on a plus ou moins, je crois, tous lu le premier, le plus célèbre des livres de François Tchang, c'est le dit de Tijani.
Oui.
Et Madeleine Berthaud, je suppose, en parle aussi.
Elle
dans
en parle
son
longuement.
Livre, longuement.
C'est même une partie importante de son analyse, celle où elle traite du romancier plus particulièrement. Elle évoque aussi l'éternité n'est pas de trop, mais elle consacre surtout son analyse au dit de Tijani. Oui, c'est le roman qui lui a valu le prix Fulbert en 1999 et qui raconte l'aventure de trois êtres, le narrateur, Tijani, l'amante et l'ami. C'est une espèce de trilogie qu'on connaît bien, une trilogie éternelle, qui se défait, se recompose, et c'est là que l'œuvre atteint une dimension cosmique à travers les péripéties d'un amour incandescent, bien sûr, mais sur fond d'hystérie collective. Car c'est en même temps un formidable témoignage sur la Chine du communisme, sur ses camps de rééducation, sur le grand bond en avant, la catastrophe économique dont il a été l'origine, sur la révolution culturelle et ses absurdités sanglantes. Des millions de femmes et d'hommes sont tyrannisés, humiliés, sacrifiés, pour rien. Mais pendant ce temps-là, nos trois héros vivent cet amour unique, indestructible, d'une très grande pureté. Et le lien qui unit ces trois héros ne se défait pas. Bien que successivement meurent l'amante et l'ami, c'est Tianyi qui reste seul, qui est cassé par la vie, un être aux cheveux blancs et à la démarche incertaine, écrit... Je ne sais plus
Cheng,
si c'est Madame Berthaud ou si c'est Cheng. Je pense que c'est Cheng. Il est encore là pour témoigner, pour raconter à l'auteur, c'est-à-dire à ses frères les hommes, la liberté indomptable de l'esprit, l'unité du cosmos animée par son souffle. De cercle en cercle, écrit François Cheng, le temps réamorce sans faille son rythme immémorial. La réalité pour lui n'est pas forcément la vérité. L'essence peut survivre à l'existence. La mort n'est pas obligatoirement un cul-de-sac, mais peut-être une voie. Cheng écrit encore « Ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait arriver, ne serait-il pas aussi réel que ce qui est effectivement arrivé ?» Ça fait du bien.
Ça, c'est une belle écriture, en plus une belle pensée surtout.
Oui, c'est une écriture classique, je n'attache pas au mot un sens très rigoureux. Elle est belle, elle est noble, elle est harmonieuse et ça fait du bien. Nous vivons dans un monde qui est congestionné, je dirais, de certitudes, de certitudes grossières, de trivialités. Nous vivons dans un climat ordinaire que la télévision et même certains écrits littéraires développent. Ce climat d'efficacité à tout prix, de matérialisme.
Tout ça est très horizontal.
Tout ça est très horizontal, métaphoriquement parlant. Et Cheng nous restitue la verticalité.
Alors, Madeleine Berthaud, justement, elle a voulu faire ce livre donc pour restituer cette
grande
figure.
Madeleine, c'est un cas, si j'ose dire, parce qu'elle a fait une très solide et très brillante exégèse de l'œuvre de Cheng. C'est un travail en tout point remarquable. Si c'était un jury de thèse et que j'en fisse partie, je voterais les félicitations. Et il se produit quelque chose, une espèce de petit miracle. Parce que, après avoir évoqué la biographie de son modèle Elle traite successivement le thème de la spiritualité, qu'elle appelle une très belle formule empruntée justement à Jacques de Bourbon-Bucer, la basse continue de l'œuvre. Elle traite du romancier à travers l'analyse en particulier de Tiani, et enfin elle traite du poète. Et c'est très fort, très savant, très universitaire au meilleur sens du mot. Alors le petit miracle se produit lorsqu'on découvre tout d'un coup que pour comprendre vraiment ce que dit Madeleine Berthaud, il faut relire Schenck. Comprendre, je veux dire, au sens claudelien du mot, connaître, hein, au-delà d'une lecture intellectuelle. Pour entrer en résonance avec ce qu'elle dit, il faut relire Schenck. Et quand on relit Schenck, on a envie de lire Madeleine Berthaud.
Alors c'est une très bonne critique littéraire, finalement.
Mais c'est une formidable critique littéraire qui est en résonance complète avec son sujet. Et qu'on peut saluer, effectivement, et lire, lisez-la.
Alors lisez Madeleine Berthaud, Un cheminement vers la vie ouverte, François Schenck, et c'est paru aux éditions Hermann.
Je vous le rends celui-là lettre, à vous,
Hermann, hein. Lettre, mais enfin, je pense qu'on le trouvera aux éditions Hermann en 2009. Et je voudrais dire aussi que sur Canal Académie, donc, nous proposons de François Schenck le discours sur la vertu selon la culture chinoise, que vous pouvez donc trouver sur notre site internet en tapant simplement François Schenck, et aussi une interview avec lui consacrée à ses 5 méditations sur la beauté. Merci Jean, à bientôt pour une autre chronique.
À bientôt, avec plaisir.